Une vie, une œuvre, Maurice Sachs, 1906 Paris, 1945 Allemagne. Maurice Ettinghausen est né à Paris. Son père, Herbert Ettinghausen, est originaire d'Allemagne. Sa mère, André Sachs, est la fille d'un courtier en bijoux. Son père l'ayant abandonné, ainsi que sa mère, il connaît la pension et vit avec cette dernière jusqu'à ce qu'elle s'enfuit à Londres, poursuivie pour escroquerie. À 17 ans, Maurice Sachs doit se débrouiller seul. Son itinéraire passera par Paris, la campagne, le bœuf sur le toit avec Jean Cocteau, l'Amérique pendant 2 ans, et plus tard Hambourg, sous les bombardements alliés. Son œuvre, éditée en grande partie par Gaston Gallimard, fait écho à une vie ambiguë et trouble, où la tragédie côtoie la honte et d'impossibles pardons. Il croisera entre autres Max Jacob, Jacques Maritain, Mademoiselle Chanel, Violette Leduc, André Gide, Madeleine Castin. Pour Maurice Nadeau, l'auteur du Sabbat, La chasse à cour, Derrière 5 barreaux, était un gredin de haute volée. Julien Thèves signe avec Anne Pérez, Une vie, une œuvre, Maurice Sachs.
Voulez-vous, cher ami, que nous parlions maintenant d'un autre de vos auteurs, qui est Maurice Sachs. Lui, vous l'avez connu à quelle époque ?
Je l'ai connu avant la guerre. Il est venu chez moi.
Edmond Bucher.
D'abord comme ça, pour faire ma connaissance. Et puis, quelques jours après, il m'a apporté un manuscrit qui était Le Sabbat, souvenir d'une jeunesse orageuse, qui était un manuscrit merveilleux, qui a été certainement une des grandes découvertes que j'ai faites. Et lui n'avait absolument pas conscience d'avoir écrit un chef-d'œuvre. Il n'en a jamais eu conscience. J'ai fait un contrat et je n'ai pas pu l'éditer puisque Sachs était juif et qu'on ne pouvait pas éditer d'auteurs juifs pendant la guerre. Alors j'ai continué à le voir pendant la guerre jusqu'à son départ. Son départ a été assez mystérieux. En réalité, comme je ne pas tardé à le savoir, il était parti pour l'Allemagne comme travailleur volontaire. Il était employé sur une grue dans un chantier de construction. Il était affilié à la Gestapo. Il a été mis dans une cellule pour recueillir les confidences de prisonniers. C'était à Hambourg. Lorsqu'Hambourg a été libéré par les Anglais, je crois, les prisonniers se sont révoltés et auraient été trouvé Sachs dans sa cellule et l'aurait pendu au barreau, puis jeté son corps aux chiens. Enfin, je ne crois pas à cette chose-là, bien qu'elle ait été écrite dans un livre. L'autre version dit que la prison a été évacuée par les SS lors de l'approche des troupes alliées, que Sachs était en très mauvais état, qu'il était un traînard et qu'il a été exécuté par un SS comme traînard. Et il y a, paraît-il, en effet, une tombe, sa tombe, où il y a son nom, près de Hambourg. Mais jusqu'ici, sa famille s'est toujours opposée à ce qu'on ouvre cette tombe, parce que, au fond, on ne sait pas si on trouverait dessous.
Maurice Sachs, la mauvaise réputation. Qui était Maurice Sachs ? C'est une longue histoire, j'ai l'impression. À la fois courte dans le temps, mais qui était-il ?
Oui, vous avez raison, courte dans le temps, puisqu'il est mort à 38 ans.
Henri Raximoff.
En ayant vécu 1000 vies romanesques, d'une certaine façon, avec des hauts et des très bas. Alors, qui était-il ?
Personnalité abjecte, escroc notoire, menteur chronique, voleur professionnel, délateur, agent de la Gestapo, simoniaque, suborneur, trafiquant tout genre, marchand de gitons, receleur, espion, écrivain stipendier, dealer, souteneur occasionnel, pédophile, agent double, profiteur du marché noir, juif collaborateur, apostat, mouchard, prévaricateur, faux abbé, prêteur sur gage, indique, faussaire, abandonneur de femmes et d'enfants, traître à tout, Maurice Sachs n'est pas sans référence.
Barbara Israël, comment est-ce que vous avez rencontré Maurice Sachs ? Dans votre vie, il est arrivé comment ?
Il est arrivé comme un personnage de roman. J'ai d'abord pensé que c'était un personnage de roman, puisque je l'ai rencontré chez Modiano, dans la place de l'Étoile. Et très vite, il s'est insinué en moi comme une espèce de figure fantomatique de l'occupation. C'était un personnage de roman ayant lui-même fait de sa vie un roman. Donc il y avait quelque chose qui était resté en moi sans trop savoir qu'il était en réalité. Maurice Saxe, ça sonnait déjà comme une aventure. C'était le titre d'une aventure. Ce qui me trouble, c'est à quel point il est vecteur de malaise, mais beaucoup plus, par exemple, qu'un Céline ou qu'un Drieu La Rochelle. Et quelque part, j'ai du mal à le comprendre.
Le malaise Maurice Saxe, qu'est-ce que c'est ?
Le malaise Maurice Saxe, je crois qu'il vient du fait qu'on n'arrive pas à fixer cet homme. J'ai parfois du mal à l'incarner.
Il est né dans une famille juive assimilée, enfin républicaine, comme il y en avait tant à l'époque, à Paris, d'origine allemande. Bizarrement, sa famille venait de Hambourg, très, très bizarrement.
Bizarrement, parce que c'est là où il a fini sa vie.
Là où il a terminé sa carrière, si je puis dire. Sa famille était assez dissolue, assez farfelue. Du côté paternel, alors il n'y a strictement rien à en dire, c'est-à-dire que son père, qui s'appelait Herbert Ettinghausen, qui est le vrai patronyme de Maurice, disparaît de la circulation lorsque Maurice a 6 ans et il ne le reverra pratiquement plus. Et même les rapports avec sa mère sont très distants. La mère est très, à la fois, comme je disais, farfelue, peu scrupuleuse.
Dépensière,
frivole, égoïste, ayant peu de fibres maternelles, si bien que Maurice est abandonné, si l'on peut dire, dans une école un peu prestigieuse de type anglais, dans la région parisienne, du côté de Villebon, dans la vallée de Chevreuse. Et il y est évidemment malheureux.
J'étais un être des plus solitaires, des plus craintifs. Et j'eus de tout temps l'horrible sensation de n'être pas comme les autres. Ne ressemblant déjà point aux autres membres de ma famille, c'était hélas mon sort de souffrir d'être un garçon, de ne m'amuser à aucun des jeux de mon âge, et bien pis, d'être la proie d'un goût pervers dont je ne pouvais me confesser à personne. Voilà bien de quoi faire un enfant morose et renfermé. J'ai toujours été du côté des parias de ma famille, et je me suis dès l'enfance senti le plus coupable de tous. Car à leur faute capitale, dont je ne savais rien, mais dont je sentais le poids, venaient s'ajouter les miennes, dont je ne connaissais que trop le détail.
Lorsqu'il revient à Paris à 17 ans, il fréquente un an une école privée qui s'appelle toujours, d'ailleurs parce qu'elle existe toujours, rue de la Faisanderie, l'école Pascal. Je crois qu'il ne passera pas son bac. Et puis tout de suite, il est employé dans un hôtel un peu mondain qui n'existe plus, lui, qui s'appelait l'hôtel Vouillemont, où il rencontre déjà toutes sortes de gens. Il est très ami avec les enfants du propriétaire, qui s'appelait les Deldon. Saxe est ébloui par ce monde-là.
On s'amuse partout. On dîne, on sort, on soupe, on fait l'amour. Les nègres, installés à tous les orchestres, poussent des hurlements déchirants, terribles, des plaintes douces et des cris d'enfants. Le jazz secoue les corps les plus fous et les plus modérés. Et dans quelques quartiers qu'on se penche le soir à la fenêtre, on voit s'étendre au ciel la lueur rouge que jette Montmartre comme un grand lupanar. Chaque époque connaît un lieu de rendez-vous par excellence. Chaque génération a son quartier général. L'après-guerre eut le Bœuf sur le Toit, où les jeunes gens émerveillés allaient contempler Picasso, Radiguet, Cocteau, Millot, Fargue, Auric, Poulenc, Honegger, Sauguet, Satie, Jean Hugo, Breton, Aragon, Marie Laurencin, Léger, Lursa, Derain et toute l'avant-garde de ces années-là. Ces étoiles nous laissaient un éblouissement dans l'âme. Lorsque maintenant, calmé par tant de défaites, de solitude, de remords et de chagrins, je regarde dans les nuits profondes d'autrefois, je n'aperçois plus rien, ni personne, qui pût m'enivrer aujourd'hui, mais la magie des aurores agissait alors sur nous qui n'avions que 20 ans, et les délices de la découverte nous transportaient.
Why am I leaving for Alabama in the morning, where there is sunshine, so they love all the blue.
la France des années 20 a été si brillante, c'est précisément parce qu'elle est quand même accueillante aux étrangers.
Thomas Clair.
Elle est plus libertine, plus libérale, elle n'est pas puritaine, elle introduit finalement Joséphine Baker, elle introduit le bœuf sur le toit, le jazz, le monde des Noirs, les Juifs qui viennent du RSS et de Pologne, etc. Donc tout un monde quand même assez mêlé que Saxe aime beaucoup.
Qui lui correspond bien.
Au fond, cet univers cosmopolite qui fait qu'on pourrait donc presque brosser le tableau d'un Saxe qui est du côté de la liberté, enfin au sens français du terme, c'est-à-dire voilà, au sens où les êtres doivent se réaliser si possible dans une liberté.
Et contourner la colonne aux cheveux frisés.
Un poème d'opéra de Jean Cocteau dit par l'auteur La Toison d'or.
Antiquité bouclée, jeunesse de l'éternité.
Jean Cocteau habitait alors chez sa mère, rue d'Anjou, au dernier étage d'un immeuble 1880. Un escalier assez majestueux se développait dédaigneusement à côté, et du plafond du cinquième étage pendait jusqu'au rez-de-chaussée une tige de cuivre d'une seule venue qui, de palier en palier, projetait des branches courbes et délicates qui soutenaient des globes à gaz. Guillaume Apollinaire disait de ce lustre que c'était la huitième merveille du monde. Cyprien, le valet de chambre de Madame Cocteau, ouvrait la porte sur une antichambre bourgeoise, sombre, et qui ne nous faisait ainsi trembler que parce qu'elle était pour nous l'antichambre de la poésie. Je ne vis d'abord que Cocteau, étendu en pyjama noir sur son petit lit d'hôtel suisse. Ses longues mains trop maigres avaient des mouvements étranges. Nul n'était plus préparé que moi à se laisser enchanter. Mais l'enchantement fut parfait, total, irréfléchi et délicieux. Quand nous quittâmes ce magicien, je savais à n'en pas douter que je n'allais plus vivre que pour lui.
Le bœuf sur le toit est un lieu que Cocteau a inventé en quelque sorte. C'était un certain Louis Moses qui venait, je crois bien, d'Alsace ou de Lorraine d'ailleurs, pour fonder à Paris un café branché. Enfin, on disait pas branché à l'époque, mais à la mode. Et Cocteau en sera l'animateur, avec des musiciens, avec des gens de théâtre, avec c'était l'époque des ballets russes, Diaghilev, Stravinsky. Alors évidemment, Saxe fréquente Cocteau, avec lequel il fume l'opium, rue d'Anjou. Il fréquente tout ce que Paris comporte de noceurs et d'artistes.
Cet animateur imprudent, enchanteur, dangereux, dont la jeunesse se déprend peu à peu, a pourtant joué dans les esprits de deux générations un rôle qu'il serait stupide de nier. Quand j'y réfléchis calmement et sincèrement, il me faut dire que j'ai rarement rencontré d'homme qui, au fond de l'être, eut moins de cœur que Jean Cocteau. Il y avait en lui une sécheresse presque monstrueuse. Mais il prenait, pour des élans du cœur, le désir tourmentant et chez lui angoissé, fébrile, féminin, de tout posséder. Les secrets, les dévouements, les êtres et les choses. Il brûlait, mais comme brûle la glace, sans réchauffer.
Je vous cite le cas de Maurice Sack.
Jean Cocteau.
Qui ne quittait pas ma maison et tout à coup a déclaré que je l'envahissais, qu'il fallait chasser l'envahisseur, comprenez-vous ? Et alors il s'est mis à m'insulter dans ses livres parce qu'il estimait que je tenais une trop grande place à l'intérieur de sa personne, que ça, c'était une invasion et qu'il fallait me chasser comme on a chassé les Allemands
de France.
Dans son
bœuf sur le toit, par exemple.
Oui. Alors il avait des remords, il me demandait pardon et puis ça recommençait. Un jour, il a même fait semblant de mourir. Il m'a téléphoné qu'il allait mourir. J'ai été le voir à l'hôtel de Castille. Il était, on voyait juste son nez dépasser, il était fort pâle. Il a joué les mourants et il m'a dit qu'il avait écrit sur moi des choses abominables et injustes, qu'il allait les brûler. Il les a pas brûlés du tout. Eh bien, je n'en veux pas à Maurice parce que c'était un être bizarre, exceptionnel. Maurice est venu un jour chez ma mère avec une fausse lettre de moi et il a emporté tout ce que je possédais et il n'a même pas eu la patience de le trier. Il a fait des paquets, il a vendu ses paquets aux libraires, ce qui fait que mes manuscrits et les livres de Proust, d'Apollinaire avec des lettres d'eux sur la première page circulent encore partout et passent en vente publique. Enfin, comme j'ai mieux les voleurs que la police, je n'ai jamais poursuivi.
Jean Cocteau avait des ennemis. Et certains ont écrit des livres très déplaisants sur lui. Je sais que vous ne les avez pas lus, parce que Jean Cocteau vous avait demandé de ne pas les lire.
Il y a eu le livre de Maurice Saxe.
Oui.
parce que j'avais...
Jean Marais.
Je dois dire que j'ai assisté au chantage de Maurice Saxe, qui est venu à l'hôtel de Castille demander de l'argent à Jean Cocteau. Sinon, il écrirait sur lui des choses épouvantables. Bien. Ce qui était complètement stupide de la part de Maurice Saxe, car il n'aurait pas dit de moi l'argent où j'écris des choses épouvantables. S'il n'avait pas dit ça, Jean Cocteau lui aurait donné l'argent. Parce que c'était la bonté même et la générosité même. Et comme moi j'étais présent, j'ai dit, j'ai interdit à Jean de lui donner de l'argent.
Et Cocteau bientôt va se convertir ou se reconvertir, si l'on veut, au catholicisme, sous l'influence de Jacques et Raïssa Maritain. Et évidemment, Saxe, qui est suiveur, les rencontrera à Meudon. Et puis, il va se convertir, comme fait son maître, son dieu, Cocteau. Il se convertit, mais comme il pousse toujours les choses au maximum, il voudra devenir abbé. Donc, il va au séminaire des Carmes à Paris. Et il voudra devenir l'abbé Maurice Saxe, ce qu'il va être. Et au séminaire, où on n'a pas, pourtant pas le droit encore de porter la soutane, il tiendra à avoir cette faveur de porter la soutane, ce qui lui plaît beaucoup pour des raisons assez troubles.
Donc effectivement, à l'époque, Jacques et Raïssa Maritain sont aussi des figures très importantes du catholicisme ou de la vie intellectuelle.
Alors,
qui sont-ils,
Jacques
en fait,
Maritain,
ces gens?
Jacques Maritain est un philosophe, un grand philosophe, disciple de Thomas d'Aquin. Et puis, il y a sa femme, qui est Raïssa Maritain, qui est elle-même une juive convertie, née Oumantsov. Et elle gardera, d'ailleurs, Jacques aussi, Jacques Maritain aussi, garderont toujours une grande amitié pour Saxe, quels que soient les méandres
du parcours de Saxe,
immoraux de sa vie, oui, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Maurice. Alors il va, donc il sera catholique, et puis comme ses penchants sexuels et homosexuels, pour dire les choses, prendront le dessus, et il va faire scandale sur une plage de Jouan-les-Pins, où il va s'éprendre d'un jeune homme, un jeune américain. Et ça va faire évidemment scandale, parce qu'il va à la plage avec sa soutane.
Vous rencontrez Maurice Saxe pour la première fois à quel moment et dans quelles circonstances?
Jean Hugo.
Il est venu me voir en soutane parce qu'il était au séminaire de Saint-Sulpice.
Combien de temps est-il resté au séminaire de Saint-Sulpice?
Il n'y est resté qu'un, je crois, un trimestre ou un semestre.
Maurice Saxe a été marchand de tableaux.
Oui, en sortant du séminaire, il est devenu mon marchand de tableaux.
Et il vous a organisé une exposition à Londres?
Il m'a organisé une exposition à Londres, à ce moment-là, avec Marc Jacob, où l'ambassadeur de France est venu, et avec beaucoup de monde, au vernissage, et puis l'ambassadeur est parti, et plus personne n'est venu dans tout le cours de l'exposition.
Était-il un marchand de tableaux comme les autres?
Maurice Saxe avait une conversation éblouissante, et était un marchand de tableaux plus ou moins honnête. Plutôt moins que plus.
Et alors, bon, voilà, et évidemment, la prêtrise s'est fichue. Et là, Cocteau va l'envoyer chez Max Jacob, qui est également un juif converti. Pour ça, ce qui compte, c'est Max Jacob, qui fait des lithographies, qui fait de la peinture et qui fait de la poésie, évidemment. Et alors, il y a une sorte de coup de foudre, une vraie amitié qui va durer assez longtemps. Et à ce moment-là, il rencontre un ami, Jacques Bonjean, avec lequel il fonde une petite maison d'édition, Les Quatre Chemins. Et il publie Max Jacob, en espérant gagner un peu de sous. Finalement, ça se fait assez mal, ils se disputent sur l'argent.
Hein. Donc Maurice Saxe rêve aussi éditeur à un moment donné.
Oui, il est éditeur d'ailleurs, il publiera notamment le livre blanc de Cocteau, hein, qui sont des dessins homosexuels, un peu crus.
Cocteau va faire publier anonymement.
Anonymement, absolument. Oui, oui, tout à fait. Cette amitié avec Max Jacob va durer. Ils s'écrivent tout le temps lorsqu'ils ne sont pas ensemble. Alors, lorsque Saxe plus tard publiera son premier livre,
qui s'appelle... commence à écrire déjà à la Maurice.
Alors il commence à écrire. Mac Jacob l'y incite. Il écrit un petit livre qui s'appelle Le voile de Véronique, qui n'est pas un chef-d'œuvre absolu, disons-le. Et plus tard, lorsqu'il écrira Alias, qui est son premier livre paru à la NRF, il fera la caricature de Mac Jacob sous le nom de César Blum. Et Mac Jacob, évidemment, va s'en trouver fâché. Et il en voudra à Maurice Saxe. Et ça sera une rupture absolument définitive. Mac Jacob verra là une trahison totale. Alors après, ça sera les Castin, Marcelin et Madeleine Castin, qui ont une belle propriété à Lève. Marcelin est un critique d'art qui va initier Maurice Saxe à la peinture et notamment à l'amour de Soutine, dont ils sont les mécènes l'un et l'autre. Et c'est encore une amitié qui, avec Madeleine, va durer jusqu'à la guerre, jusqu'à la mort de Saxe.
Même si Maurice Saxe, je crois, va leur dérober un Soutine.
Ben, bien sûr, son naturel revient toujours au galop. Lorsque Saxe sera hébergé à Paris dans leur hôtel particulier par Marcelin et Madeleine Castin et qu'ils devront, ceux-ci partiront en voyage 2 mois. Saxe va garder la maison et puis il y aura un beau Soutine au-dessus de son lit, un poisson que Saxe va évidemment, parce qu'il aime le luxe, il aime dépenser, il aime l'argent, enfin il a besoin d'argent, tout simplement, il va prendre le Soutine, il va le vendre, et lorsque Madeleine et Marcelin vont revenir à Paris, il n'y aura plus de Soutine, mais Saxe va se confondre en excuses, et va implorer leur pardon, ce qu'il obtiendra d'ailleurs, parce qu'il obtient toujours le pardon des gens qu'il vole. C'est un compagnon de rêve, enfin, il est
très
agréable.
Joyeux, très intelligent.
Oui, il a toujours plein d'anecdotes, de choses à raconter. Sa vie est un roman picaresque d'un bout à l'autre, et donc il amuse les gens. Et Madeleine est très ouverte, enfin, voilà, elle est large d'esprit.
Donc elle passe.
Elle passe l'éponge.
Elle passe l'éponge.
Cocteau me présenta à Mademoiselle Chanel, qui était alors au comble de sa renommée et de sa fortune. Non seulement elle était la couturière la plus célèbre, mais elle inaugurait en quelque sorte le règne des couturières, tenait une cour, table ouverte, distribuait des privilèges et des pensions que Bernard Grasset appelait drôlement les pensions de la grande mademoiselle. Elle me chargea de lui composer une bibliothèque et engagea une dépense qui monta jusqu'à 60 000 francs par mois. On peut penser que je gagnais fort bien ma vie là-dessus. Je ne fus d'abord qu'un fournisseur. Je devins peu à peu un habitué de la maison et un ami. On imaginera aisément la fascination que pouvait exercer sur un jeune homme le luxe démesuré d'une femme qui est sur le point de ne plus compter sa fortune. On lui prêtait alors un revenu de 25 millions. Tout m'éblouit. Mais l'argent fondait entre mes doigts. Il m'en fallait davantage et davantage chaque jour. J'avais un appartement, des tableaux, une voiture, un secrétaire, 2 domestiques, un masseur, des amours coûteuses. Je passais des nuits au cabaret, des après-midi chez le tailleur, j'achetais des livres, des bibelots. Et ce fut peut-être le moment de ma vie où j'eus le plus d'agrément physique.
Sa relation à Coco Chanel, je ne pense pas qu'elle soit d'une affection absolue. C'est un moment dans sa vie. Elle lui ouvre certaines portes de certains salons. Elle lui donne beaucoup d'argent. Il l'arnaque, évidemment. Et elle lui en veut beaucoup. Et elle lui ferme toutes ses portes. Mais ils avaient une certaine forme de... On pouvait les comparer dans leur... enfance respective, leur solitude.
Vous parlez de la nuit. En quoi c'est une figure de la nuit, Maurice Saxe? Quels étaient ses lieux? Quelles étaient ses addictions, ses habitudes nocturnes?
Le fameux bœuf sur le toit, les bals homosexuels qu'il y avait dans Paris, où il sortait avec Cocteau. Et puis c'est un alcoolique. On ne peut pas dissocier la nuit de l'alcool. Je ne connais pas quelqu'un qui ne boit pas et qui sortent toute la nuit, c'est lié. Parce que la nuit, on ment, et parce que l'alcool nous fait mentir, et aussi nous révèle à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, on ment à tout le monde, on se ment à soi-même, et finalement, peut-être que c'est presque dans ce mensonge qu'on se révèle.
Je m'éveillais parfois en sueur, tremblant de honte, haï de moi-même comme je n'ai jamais haï personne. Les pieds glacés, les ongles cassants, les entrailles pesantes, une pâte épaisse dans la gorge, une gomme sur la langue, le sexe en feu. Il me semblait que j'étais frotté de souillure, repus de fumier. C'est l'enfer ici-bas, le seul enfer, l'horreur de soi. Ah, me quitter un instant, gémissais-je, et je buvais de plus belle. Et Paris devint pour moi comme un de ces meubles en mosaïque de glace où se reflétaient partout mes erreurs. Une horrible photographie de ma réputation.
Comme si cet abaissement ne suffisait pas, ce fut l'année où je découvris les horribles plaisirs de la promiscuité. Voici comment. Je n'avais pas jusqu'alors même soupçonné qu'il y eût un marché établi de l'homosexualité. On m'indiqua un établissement de la rue qui, sous couvert d'un commerce de bains, dissimulait celui des prostituées mâles, garçons assez veules, trop paresseux pour chercher un travail régulier et qui gagnaient l'argent qu'ils rapportaient à leurs femmes en couchant avec des hommes. Lorsque je compris que je pouvais avec 100 francs tromper mon ancienne soif d'Octave, un pareil endroit me devint indispensable. Mais j'avais besoin pour y aller de me forcer à croire que j'y trouverais un garçon que j'arracherais à son triste état et avec lequel je vivrais comme avec Octave.
Alors, Saxe fréquentait les établissements de bains, notamment les bains Duret.
De la rue Duret dans le 16e
ou... La rue Duret dans le 16e, ça doit être ça. Mais il y allait pas seulement pour le plaisir, pour ses loisirs, il y allait pour se réfugier. Lorsque la police le recherchait trop, lorsqu'il avait commis je ne sais quel méfait, il allait là trouver asile. Et il avait rencontré notamment un personnage à la fois sulfureux et célèbre dans l'histoire littéraire, qui est Albert Le Cusia. Albert Le Cusia tenait, du temps de Proust, une sorte de bordel homosexuel que fréquenta Proust et que Proust décrit dans Sodome et Gomorre, où il fait aller le baron de Charlus, où le baron de Charlus se fait fouetter, et où le narrateur, par une lucarne, regarde la scène avec une certaine émotion.
De chambre en chambre, quand je venais chez Albert, il me semblait voir courir l'ombre légère de Proust. Dans celle qu'Albert appelait la chambre royale parce que c'était la sienne, ou la bibliothèque vaticane parce qu'il y rangeait ses livres, et jusque dans ses salles de bain nombreuses, d'où l'on voyait sortir précautionneusement, marchant sur la pointe des pieds, comme si cela dissimulait leur figure, des hommes riches, célèbres, enviés, souvent mariés, et passant pour d'excellents pères de famille, mais qui n'avaient pas pu, ou pas su, perdre le goût des garçons. Ce n'était pas le moindre attrait qu'avait pour moi cet étrange établissement, que d'y retrouver par-delà sa mort, mais terriblement vivant, ce Marcel Proust, dont le nom avait été pour toute notre jeunesse comme un gage de féerie.
Nous sommes en 31-32, juste avant de partir aux États-Unis. Il rencontre le docteur René Alindy, qui est assez célèbre à l'époque. Et René Alindy, aujourd'hui, il est assez oublié, mais enfin, il a été un des introducteurs de la psychanalyse en France. Notamment, il a travaillé sur la conduite d'échec. Au fond, ça correspond tout à fait à la conduite de Maurice Saxe. Hein. Il sera en analyse avec le docteur Alindy. Je ne sais pas.
Il va s'allonger sur le divan.
Ah, il va s'allonger sur le divan. Une cure classique, freudienne, tout à fait dans la norme de l'enseignement de Freud. Mais il va y mettre fin parce qu'il a trouvé un nouveau job de représentant d'une galerie, de la galerie de Motte à New York. Et à New York, qui est une ville effervescente déjà à l'époque, depuis longtemps, qu'il l'est toujours, il aura une vie mondaine, artistique.
Bref, je faisais dans les salons une figure si agréable que j'en eus presque la tête tournée et que je m'avisais de faire la cour à la fille d'une des meilleures familles du vieux New York. J'allais chaque jour chez elle, dans l'après-midi, où je poussais des soupirs à fendre le cœur en prenant le temps de faire de l'esprit. Je devais être passablement ridicule, mais je me croyais génial.
Puis très vite, il va donner des conférences pour la NBC, la radio new-yorkaise.
Henri Reximoff.
Où il va parler de la vie artistique qu'il connaît très bien à Paris. Donc, ce qu'il appellera la décade de l'illusion. C'est un de ses tout premiers livres aussi, qu'il écrira en anglais avec sa femme, parce que, rebondissement dans sa vie, il fait la connaissance d'une sorte de fan qui vient l'écouter, d'une jeune femme qui vient l'écouter tous les jours lorsqu'il donne ses conférences sur la vie parisienne. une sorte de bas bleu, et il va l'épouser. Ils partent ensemble, une sorte de voyage de noces, dans le nord de l'État de New York, dans les Catskills, où ils écrivent ensemble, en anglais. Sachs parlait couramment l'anglais comme le français. Le mariage, inutile de dire, ne sera jamais consommé, mais là n'est pas l'essentiel. Nous sommes en 33.
La crise a éclaté aux États-Unis.
La crise éclate à ce moment-là. Ils voyagent. Et puis, sur la côte californienne, Sachs fait la connaissance d'un tout jeune homme qui s'appelle Henry Wibbles, qui est très beau, californien, qui parle le français. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et lui abandonne sa femme carrément, du jour au lendemain. Et il revient, alors il a plus d'argent, il revient à Paris
avec
Wibbles. Ils vont chez les Castaings, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les Castaings les logent un petit peu, un certain temps. Puis, il se dit Cocteau, c'est fini. C'était une vieille histoire, une ancienne histoire. Maintenant, ça sera Gide. Donc, il va voir Gide, qu'il avait vu une fois. Gide un peu, alors l'anti-Cocteau, hein, protestant, froid, rigoureux, pas du tout dans la séduction. Mais Gide, c'est l'ANRF, c'est le contemporain capital, voilà. Et il va faire la conquête de Gide et de Gallimard, et Gide va l'introduire à l'ANRF, où on va lui donner, bizarrement, la collection catholique.
En même temps, il était au séminaire. Donc,
alors il était au séminaire, il connaît très bien son sujet. Et il lie amitié avec Gaston Gallimard, et là encore, ça va durer longtemps. Ils vont s'apprécier. Par contre, il y a quelqu'un à l'ANRF qui ne l'apprécie pas du tout, c'est Jean Paulhan. Là, les rapports vont être assez épineux, assez difficiles.
Alors, ce qu'il raconte, c'est qu'effectivement, les années 20, c'était les années folles, c'était l'argent coulé à flot après la paix de 1918. Et là, c'est vraiment les années 30, c'est la crise, Paris est appauvri, et lui-même...
Il a une vie assez lamentable, là, il fréquente...
Il vit donc effectivement à l'hôtel, alors, dans un endroit, ouais. Mais crasseux, terrible, oui, extrêmement
l'hôtel
pauvre.
L'hôtel des quatre vents.
Sur lequel l'église Saint-Sulpice jette une ombre mauvaise. J'en aurais tout dit en racontant que les lits étaient constamment humides et que les punaises étaient incrustées jusque dans les parquets et les murs. Quelle tristesse, quelle misère! La bonté de la propriétaire n'atténuait pas la sordidité de son établissement. Un malheureux jeune homme, la tête en poire et qui, à force de ne jamais voir le soleil, avait pris une pâleur mortelle, se partageait les soins du ménage avec une pauvre boiteuse qui prenait, je ne sais où, le courage de rire tout le temps.
Et il se refait de façon plus ou moins honnête. Et lorsqu'il a de l'argent, il dépense aussitôt son bien. Wibbles s'en a marre, il s'en va.
Et il va connaître un succès dans le monde du théâtre.
Oui, tout à fait. Il rencontre Pierre Fresnay et sa compagne Yvonne Printemps qui cherchaient quelqu'un susceptible de traduire une pièce à succès anglaise, britannique, qui s'appelait... French Without Tears, le français sans peine en quelque sorte, que Sachs va traduire sous le nom de l'écurie Watson, et ça sera une sorte de succès. Et Sachs, fort de ce succès-là, éphémère, faut-il le dire, voudra devenir un dramaturge et donc va harceler Fresnay, qui est lui-même un protestant, qui représente pour Sachs l'homme bien, parce qu'il cherche toujours des hommes bien, à l'ombre desquels il voudrait évoluer et devenir lui-même quelqu'un de bien, mais bon, sa compulsion comme ça à l'échec et au mal et à la mauvaise conduite et au remords et à la culpabilité prendra toujours le dessus.
Je repris le goût de boire que la compagnie d'Henry Wibbles m'avait fait oublier. Nous nous aimions assez pour nous donner réciproquement beaucoup de bonheur, mais nous ne savions pas être heureux ensemble. Il fallut bien nous séparer avant que nous ne fussions tout à fait anéantis. Lui dans sa dépendance, moi dans l'ivrognerie et le mensonge. Perdre l'ami le plus cher qui avait partagé mes pires souffrances, auxquelles j'étais plus attaché après 4 ans de vie commune, lui voir autant de chagrin de partir que j'en éprouvais de notre séparation, ce fut plus que je ne crus pouvoir en supporter.
Il
y a un désœuvrement chez lui au double sens du terme. Au premier sens du terme, plutôt anecdotique, c'est que Sax ne travaille pas mais préfère voler les autres. Et donc, il construit une carrière d'escroc avec plus ou moins de réussite. Ça peut aller d'ailleurs du petit larcin jusqu'à l'escroquerie plus organisée, notamment sous l'occupation. Mais le deuxième sens, bien sûr, c'est le désœuvré, celui qui ne produit pas l'œuvre.
Il a écrit des milliers de pages. Seulement, il n'y croyait pas lui-même. La plupart de ses manuscrits ont été retrouvés après la guerre, inachevés, laissés sur le bord du chemin, confiés, donnés à des amis. Lui-même ne croyait pas à ce qu'il faisait. Par exemple, l'inédit que publie Lerne, qui préfigure le sabbat, s'appelle Le Mémoire Moral, il ne continuera pas. Il y a d'autres romans, John Cooper d'Albany est un gros roman que Gallimard publiera quand même en 52, je crois bien, qui est inachevé.
Son grand fantasme, c'est véritablement d'être un grand écrivain. Et ce fantasme le domine, le surplombe, l'accable finalement. D'ailleurs, il n'a pratiquement rien publié de son vivant. Mmh. Ce qui est assez beau aussi, c'est que toutes ses œuvres surgissent posthumes comme des fleurs.
C'était le mot de Cocteau, c'est ça, vous pouvez rappeler
Jamais Maurice Sax n'a autant écrit que depuis qu'il est mort.
Pourtant, il avait publié un petit peu de son vivant.
Oui, il avait publié un premier livre.
Mais il y avait beaucoup avec le monde littéraire de son époque, avec les Gallimard tout puissants, il y a beaucoup de frictions, beaucoup de difficultés.
Oui, il n'était pas sûr de son talent, ce qui aussi me touche, parce que, évidemment, quand on est écrivain, on doute toujours. Enfin, en tout cas, je pense que la littérature et l'art sont du côté de la fragilité. Et donc Sax avait écrit un premier livre qui s'appelait Le voile de Véronique, qu'il avait présenté à Cocteau, et Cocteau, qui était quand même un être assez dominateur en un sens, lui avait dit non, ça ne vaut rien, écoute, ne te compromets pas, finalement.
Cocteau lui avait dit, tu ne seras jamais écrivain.
Voilà, hein, donc avec ce côté justement très péremptoire aussi qu'il pouvait avoir Cocteau qui régnait sur le monde des lettres. Et Sax en avait été extrêmement mari. Hein, il se prend vraiment lui-même ensuite pour objet de sa propre fiction, finalement.
C'est aussi un petit peu, effectivement, la chronique d'un temps. Il y a une forme de...
Oui, il y a aussi cette volonté d'emporter avec lui toute une époque, je pense. Hein. Je pense que, finalement, il se vautre dans une époque qui va, finalement, courir à sa perte, un peu sur le mode de la règle du jeu de Jean Renoir, finalement. Il y a un peu cette idée que l'Europe va à nouveau sombrer et que lui-même fait partie de ce naufrage.
Je vendis pour boire le peu que je possédais. Quel affreux et scandaleux spectacle. Je donnais un endurant. Ventripotent, pâle, barbu, vêtu de loques et démuni, je traînais de maison en maison, incapable de rien faire, riant grassement après quelques verres, morfondu par la plus courte continence. Je regardais parfois dans la glace mon œil glauque, dans lequel nageait ma prunelle comme une huître morte, ou mon ventre blanc et gonflé comme celui d'un âne mort. Mes pieds, que dévorait une pelade nerveuse, mon sexe, rabougri par les services infâmes, je n'osais pas inspecter l'âme, et je m'accoudais quelquefois, en criant à l'intérieur de moi « Merde, merde, merde !» Mais cela n'y changeait rien. Cette honte-là est bien pire que le malheur. J'ai fait d'affreuses choses, ces jours de honte. Et je volais aussi, pour boire. Je rebuvais pour revoler. C'était un cercle infâme.
Il rencontrera ensuite, nous sommes en 38, Violette Le Duc, qui aussitôt va être séduit.
Alors comment se passe la rencontre ? Vous pouvez la raconter, il l'a décrite lui-même. Hein,
oui, il l'a décrit assez bien. Il rencontre cette secrétaire qui lui semble aussitôt d'une grande laideur. Et il lui demande, mademoiselle, que pensez-vous de l'amour ? Et Violette va être de plus en plus séduite par le personnage, va en être éperdument amoureuse pendant la guerre, en 40... Non, même, pardon, plus tard, en 42, ils vont vivre ensemble, ils vont s'en aller dans un petit village de Normandie, dans l'Orne, à Ancin, où ils passeront 2 mois d'été, l'été 42, Violette éperdument amoureuse de lui, lui n'en voulant pas, en tout cas sexuellement, il n'était pas question d'avoir la moindre relation de cet ordre.
Et un jour, excédé tout de même, c'était pas un ange.
Violette Le Duc.
Il m'a dit, vous m'emmerdez, vous, avec vos souvenirs d'enfance, prenez une feuille, prenez un porte-plume, un cabas, allez vous installer sous un pommier et commencez. Et je suis partie, et en écolière docile, j'ai commencé, justement, ma mère ne m'a jamais donné la main. J'ai commencé les 3 premières pages de l'Asphyxie, je suis revenue, je l'ai écrit.
Et là, au bout de 2 mois, il en a assez et il rentre à Paris. Nous sommes en 42, novembre 42.
Allô chérie, écoute, j'ai 3 tonnes de sucre à 60 francs le kilo. Et moi 100 litres d'huile. Allô mon vieux, j'ai besoin de 5 tonnes de cuivre, très sérieux, pour les Allemands. Allô, comment allez-vous cher monsieur? Connaîtriez-vous des locomotives pour voies étroites et 100 km de rail? Si vous pouviez me les procurer, je vous ferais bénéficier d'un camion de tabac belge. Ah, je n'ai pas cela, mon cher. On vient de me proposer du cognac d'origine, sur wagon, carte rouge, et des jambons. Excusez-moi, je raccroche. Je crois que je suis branché sur table d'écoute. Voyons-nous plutôt ce soir, au Fouquet's.
Dans la chasse à cour, Saxe raconte sa vie à Paris entre 40 et 42, sous l'occupation. Trafic. Alors, grande vie, il avait une calèche à lui qui l'attendait en bas de chez lui. Il fréquentait les plus grands restaurants de Paris, fréquentés par les Allemands, évidemment. Il se livrait à une vie de débauche, enfin de... Il va vivre pendant un temps au 15 quai de Conti, où Modiano a passé son enfance avec son jeune frère Rudy. Donc c'est une sorte de coïncidence. Quoi.
Ouais, Modiano aurait vécu dans le même appartement.
Il a vécu dans le même appartement qu'avait occupé Saxe dans les années 41-42, tout à fait. Il y a chez Modiano en tout cas une sorte de mythologie de Saxe, de la figure de Saxe.
Patrick Modiano, vous avez écrit un roman dont le titre est « La place de l'étoile ». Ce roman se présente comme le roman d'un révolté.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui se promène boulevard des Champs-Élysées pendant l'occupation allemande et un militaire allemand lui demande où se trouve la place de l'étoile et il désigne le côté gauche de sa poitrine, c'est-à-dire l'étoile jaune. Enfin, et en même temps, la place de l'étoile, c'était la place du cœur.
Et dans ce livre, vous vous attaquez à un certain nombre d'auteurs qui étaient ou des auteurs antisémites comme... Drieu La Rochelle, comme Céline, ou bien alors des auteurs plus ambigus comme Maurice Saxe, qui tout en étant juif, a collaboré et a fini sa vie en Allemagne. Alors est-ce que ce livre est un pamphlet?
Ce sont des auteurs que j'admire, qui me tiennent à cœur, et quand j'en parle toujours avec passion, enfin, ce sont des auteurs qui ne me sont pas indifférents, enfin je veux dire, ce sont ceux que j'ai relus sans cesse.
Et ce livre que vous avez écrit, est-ce qu'il vous a aidé à comprendre le mécanisme de ces gens?
Non, mais en même temps, j'ai l'impression que je les vois, enfin, d'une manière presque hallucinée, enfin, que je vois ça, que ça que c'est mon ami, que je le rencontre comme ça, ou même Céline, enfin. Non seulement ce sont des écrivains, mais aussi des gens qui ont une présence presque, enfin, charnelle à côté de moi, enfin, je les vois, quoi. Enfin, il y avait toute une société curieuse qui avait profité de ces événements pour surgir, enfin, qui était en majorité composée de membres du milieu ou bien de des gens assez douteux, enfin, qui surgissaient dans n'importe quel milieu, dans le monde du journalisme, dans le monde de l'industrie, dans le monde de des gens qui avant-guerre étaient toujours marginaux et qui ont profité de cette période pour ressurgir et pour éclater au grand jour. C'était leur royaume, enfin.
Et c'était notamment celui de Maurice Saxe.
Oui, alors, c'est curieux parce que Maurice Saxe, enfin, c'est un écrivain peut-être qu'on peut considérer comme mineur, mais je veux dire, quand on l'examine, on voit bien la différence qu'il y a entre l'avant-guerre et tout d'un coup, la tragédie, l'occupation. C'est-à-dire que Maurice Saxe, avant-guerre, c'était un charmant garçon qui fréquentait le Bœuf sur le Toit, qui était un ami de Cocteau, qui était un aimable... dilettante, qui était spirituelle. Et puis tout à coup, la tragédie s'abat sur la France en 40. Et alors, si vous voulez, tous les défauts qu'avait Maurice Saxe, qui étaient des défauts mineurs, la frivolité, la négligence, la nonchalance, ça se mue tout d'un coup en... Enfin, il devient presque un auxiliaire de la Gestapo. Au fond, il était très heureux sous Paris. Et petit à petit, il a glissé au fond de l'abîme et il a fini par en mourir, enfin... Justement parce qu'il manquait de caractère et que dans une époque comme celle-ci, il n'y a que les gens qui ont beaucoup de caractère qui peuvent s'en sortir. Maurice Saxe s'est laissé porter par l'événement et finalement il en est mort. Enfin. Alors on retrouve dans le destin de Maurice Saxe, en tout petit, le destin de la France, enfin je veux dire, cette espèce d'avachissement après une avant-guerre frivole et relâchée.
Jacques de Castilla, on est venu vous voir parce que vous avez quelque chose de très émouvant pour nous qui sommes à la recherche de Maurice Sachs. Comment vous êtes entré en possession de cette correspondance?
Maurice Sachs avait loué à ma grand-mère, au début des années 40, un petit appartement au 194 de Rivoli. Et donc, elle avait des placards qui étaient très profonds. Et Maurice Sachs y avait mis une belle mallette en cuir dans laquelle, lorsqu'on l'a ouvert, on a trouvé donc tout un ensemble de documents manuscrits, à la fois des manuscrits qu'il n'avait pas publiés et puis cette correspondance.
Dans toutes ces lettres reçues par Maurice Sachs, il y en a aussi une, donc la fameuse lettre qu'il n'a pas envoyée. Mmh. C'est une lettre à André Gide.
À André Gide, voilà. Elle est datée du 22 mars 40. Mon cher ami, pardonnez-moi de vous écrire une lettre qui n'est ni gaie, ni bien intéressante pour vous. Je vous l'écris quand même parce que je sais bien que malgré vos réticences, vous avez une certaine amitié pour moi. Je suis malheureux. Ça m'est arrivé d'autres fois, mais je n'ai peut-être jamais eu autant qu'aujourd'hui la certitude que ce malheur même est inutile. Inutile aux autres, comme à moi-même. Je ne m'y grandis pas. Je me plains, je me désole, il n'en est rien, N.A.I.T. Je ne sais plus trop pourquoi je vis, par habitude sans doute. J'ai bien envie de me tuer, mais les détails me font peur. Comme j'ai peur aussi d'une espèce de désordre de la mort, aussi redoutable que le désordre absurde de ma vie. Il y aura derrière moi du sang, des factures, encore de l'ignominie. Je voudrais tout mettre en ordre et mourir tranquille. Mais si tout était en ordre, il n'y aura peut-être plus besoin de mourir. Là, c'est un certificat du psychiatre René Aliendi. Il a été aussi le psychanalyste psychiatre de l'écrivain Anaïs Nin. Le certificat daté du 27 mai 1940, certificat délivré pour l'autorité militaire. Je sous-signe René Aliendi, docteur en médecine, habitant à Paris, 67 rue de l'Assomption, et actuellement mobilisé, certifie donner mes soins depuis maintenant 7 ans à M. Maurice Sachs, qui présente sur un fond permanent de névrose, entre parenthèses, phobie diverse, angoisse, des accès cyclothymiques de dépression, d'allure mélancolique, survenant très brusquement et qui depuis cette époque se sont reproduits avec une certaine périodicité.
À Paris, il est grillé parce qu'il a plein de créanciers aux fesses, de gens qu'il a volés, de gens avec qui il a fait du trafic d'or, des Allemands, des Français. C'est très très trouble. Il y a des témoignages de Violette Leduc qui le voyait en direct. Sachs avait un carnet d'adresses bien rempli, notamment de juifs de la bourgeoisie.
Il récupérait leurs biens quand les juifs passaient en zone libre.
Oui, puis aussi il tenait table ouverte dans un café de l'école militaire où il se faisait fort de faire passer des familles juives en zone libre. Il semblerait qu'il ait monnayé ses services auprès de passeurs de la zone de démarcation, qu'il ait empoché l'argent et qu'il ait laissé les familles comme ça dans la nature. Mmh. Il est recherché par la police, par la Gestapo. N'oublions pas qu'il est homosexuel notoire, ce qui est un délit à l'époque. Il est juif, ce qui n'est pas la moindre des choses à l'époque. Il est voleur, il a des gens qui portent plainte contre lui.
Je m'en vais. Je ne sais où je vais, où j'irai. Vers l'Orient, s'il me reste quelque chance. Vers la grande liberté païenne de l'amour. Vers les climats faciles et les nourritures frugales. Vers la pauvreté, si l'on veut, qui serait une vraie richesse. Je débarrasse un certain milieu artiste, cosmopolite et frelaté, d'un peu ragoûtant personnage. Et je me débarrasse des entraves de ce milieu que je hais. Heureux de lui laisser la peau de ce moi qui me fait horreur. Cuir solide et pourtant rompu, auquel s'attache encore un peu de chair, ou pourrit encore un peu d'âme, les bas morceaux. Je n'ai plus envie d'être grand, ni célèbre, ni parfait. Oh, candeur! Mais je veux aller où je puisse être, obscurément,
Un homme qui ne me dégoûte pas, car c'est mon passé ce sabbat. Maurice Saxe, 1942.
Il ne m'avait pas dit qu'il partait pour l'Allemagne. Je croyais qu'il allait nous chercher une maison dans le Poitou. Mais d'abord, il venait à Paris pour régler, je crois, des comptes avec l'éditeur d'art Pierre Tisnay. Et j'avais beaucoup pleuré pendant 3 jours à cause de son départ, puisqu'il m'avait un peu rudoyé en me disant, amicalement, en me disant que j'avais un visage d'outre-tombe et qu'il préférait que je ne lui dise pas au revoir le matin quand il quittait le village de Normandie à 5h. Je n'ai pas dormi de la nuit. À 5h, je me suis levée quand même, je suis descendue dans la cuisine. Il était en train de prendre une pauvre serviette, une sorte de ces serviettes de représentant de commerce à la dérive, comme bourré d'inutilité, mais la sienne ne l'était guère parce qu'il emportait le manuscrit du sabbat qu'il allait remettre à de Noël. C'était vraiment le déluge. Je l'ai accompagné jusqu'à la barrière en chemise de nuit et je l'ai vu descendre la côte, un peu voûté avec un malheureux imperméable qu'un juif réfugié dans le village lui avait prêté, un chapeau mou, de vieilles chaussures. Et là, je ne sais pas, on est parfois voyant, je me suis dit, je ne le reverrai jamais.
Et là, il se jette dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'il s'engage volontairement comme travailleur en Allemagne.
Je travaille comme ouvrier d'usine. Un sort favorable m'a placé à la conduite d'une grue électrique, seul dans une cage de verre, à 20 mètres de haut, par-dessus un chantier. Cela égaie l'âme. Enfin, l'atmosphère du camp où je loge me plaît, mais me convient. Je suis pauvre de fait, riche par l'intérieur, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est la vie. En plein dans ce Hambourg bigarré, fourmillant, assez beau, Venise austère avec ses canaux en pleine ville. Un monde d'ouvriers venus de toute l'Europe est ici à Babel. Étonnantes brasseries scintillantes et chantantes. Et les mâts au port m'invitent à espérer, plus tard, d'autres voyages.
Engagé donc par les Allemands en 42-43 à Hambourg, il doit surveiller des réseaux de résistance. Et donc il est payé pour ça. Au cours de ses contacts, il se prend de sympathie avec peut-être probablement aussi des nuances de désir. Je ne sais plus exactement pour certains membres de cette résistance qu'il prévient de leur arrestation prochaine. Et donc les nazis, enfin il joue un double jeu en fait.
Agent double.
Voilà, agent double. Les nazis s'en aperçoivent et à ce moment-là le condamnent, le mettent à l'écart.
Et pendant qu'il est en prison, il écrit et il envoie tout à Raymond Queneau, à la NRF. Et Raymond Queneau donne tout ce qu'il reçoit, un peu dans le désordre, à Yvon Bellaval, qui est un philosophe, à la professeur de philosophie à la Sorbonne. Yvon Bellaval mettra en forme tout ce que Queneau va lui passer.
À Madame Madeleine Castin, 8 septembre 1943. Chère Madeleine, je venais de voir près de moi tant de morts et de drames sous le bombardement quand votre lettre m'est parvenue. J'ai 36 ans cette semaine, mon visage a changé beaucoup. Je pèse 68 kilos maintenant, et les premiers cheveux blancs apparaissent. Il est grand temps que j'écrive un beau livre. Tous les éléments en vivent en moi. Il ne me manque que la forme, le cadre, l'expression nécessaire, si l'on veut. Pensée constante et tourmentante.
28 juillet 43. Depuis 4 jours, nous vivons pratiquement dans la cave, ou dans ce qui reste de cave. Dans le peu qui reste de cette belle ville, aujourd'hui en amas brûlant de briques, de poutres, de débris et de plâtre à noirci. Les places et les boulevards voient couler une foule bigarrée et fourbue d'exode. Les avions reviennent sur tout cela, lâchent quelques nouvelles bombes, s'enfuient pour revenir un quart d'heure après. Les humains, dessous, tournent, se détournent, retournent, repartent, piétinent, pleurent silencieusement et s'étonnent. Je considère comme assez miraculeux d'avoir encore ma peau.
Il y aura, après la guerre, une sorte de légende qui va se créer sur la fin de Maurice Saxe, qui mériterait à elle seule un livre entier. Et Modiano reprend ce mythe d'un Saxe qui, dans sa prison, lorsque, à la fin de la guerre, lorsque les Anglais occupent, bombardent puis occupant Bourg, Saxe aurait été livré à ses co-détenus qui l'auraient roué de coups, qui l'auraient pendu à un croc de boucher et son corps livré aux chiens bergers allemands évidemment. Donc une sorte de fin comme ça, épique, wagnérienne, démente. Mais tout ça est faux. Voilà.
Donc officiellement, Maurice Saxe est mort en 1945 en Allemagne.
Voilà, il est
enterré là-bas.
En avril 1945, la prison de Hambourg où il est prisonnier donc, est évacuée par les nazis. Il y a une sorte de marche, comme une sorte de marche de la mort, hein, où les SS conduisent les prisonniers vers le port de Kiel, qui se trouve au nord de l'Allemagne.
C'est un exode de prisonniers.
Un exode de prisonniers, tout à fait. Et Saxe, qui continue d'être assez... gros, lourd, adipeux, ne peut pas marcher comme ça pendant des jours. Donc les SS ont ordre de tuer ceux qui ne peuvent pas marcher. Donc il est abattu par un SS sur le bord de la route, comme ça, à 10 km au nord de Hambourg. Voilà la vraie fin de Maurice Saxe.
Et il a quel âge à ce moment-là ?
Il a exactement 38 ans.
Saxe finalement est un personnage voilà, assez fantomatique, au sens où le fantôme ne disparaît jamais complètement. C'est une figure de la littérature française assez particulière.
Oui, parce que Julien Green a confié à un biographe qu'il l'avait entreaperçu dans un hôtel en Autriche. Il avait entreaperçu sa silhouette et qu'il s'était enfui.
Après la guerre.
Après la guerre, oui. En 48, 3 ans après sa mort. Je pense qu'il y avait cette idée... On ne pouvait pas se dire que Maurice Saxe finirait comme ça. Il y avait cette idée de vouloir continuer le roman.
C'est une affaire très française aussi. Le côté trouble et noir de Saxe ne peut pas ne pas renvoyer aussi à cette époque que la France a eu tant de mal à digérer et qu'elle a essayé de gommer par une innocence fabriquée d'après-guerre.
C'est le fantôme de l'occupation.
Voilà, exactement. Modiano tire vraiment son œuvre, en grande partie, à mon avis, de ce personnage. Ce serait très beau qu'un écrivain, finalement, décide d'écrire... par rapport à un autre écrivain.
Nous prenons nos repas à l'hôtel des Bergs. L'après-midi, Des Essarts travaille à un livre sur le cinéma russe d'avant la Révolution. Quant à moi, je traduis les poètes alexandrins. Nous avons choisi le bar de l'hôtel pour nous livrer à ses menus travaux. Un homme chauve, aux yeux de braise, vient s'asseoir régulièrement à la table voisine de la nôtre. Un après-midi, il nous adresse la parole en nous regardant fixement. Tout à coup, il sort de sa poche un vieux passeport et nous le tend. Je lis avec stupéfaction le nom de Maurice Saxe. L'alcool le rend volubile, il nous raconte ses mésaventures depuis 1945, date de sa prétendue disparition. Il a été successivement agent de la Gestapo, GI, marchand de bestiaux en Bavière, courtier à Anvers, tenancier de bordel à Barcelone, clown... dans un cirque de Milan, sous le sobriquet de Lola Montes. Enfin, il s'est fixé à Genève, où il tient une petite librairie. Nous buvons jusqu'à 3 heures du matin pour fêter cette rencontre. À partir de ce jour, nous ne quittons plus Maurice d'une semelle et lui promettons solennellement de garder le secret de sa survie. La place de l'Étoile, Patrick Modiano. C'était Maurice Saxe, La mauvaise réputation. Un documentaire de Julien Thèves réalisé par Anne Pérez. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Éric Boisset. Archivina, Catherine Louboutin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Extrait du Sabbat et de La chasse à cour, lu par Vincent Dieutre. Avec Henri Raximoff, Barbara Israël, Thomas Clair, Jacques de Castilla. Merci à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize.
look into her Ford's colored eyes. She'll beard you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she
Ce documentaire est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture.